la création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des Pays de la Dour, ATPA, diocèse d'Aire-et-Dax et de Bayonne. Pour les pères, quelle place de l'homme dans la création? Voici l'intervention d'Isabelle Pommel, docteur en théologie.
Alors il m'a été difficile, bien sûr, vous vous en doutez, de faire un choix parmi les pères qui ont parlé de la place de l'homme dans la création. Parce que beaucoup d'entre eux ont traité cette question dans leurs commentaires des premiers textes de la Genèse que Catherine nous a présentés. J'ai choisi deux pères de la deuxième moitié du IVe siècle, Basile de Césarée, qui a vécu de 329 à 379, et puis Jean Chrysostome, qui a été évêque de Constantinople 20 ans plus tard, 349-407. Alors pourquoi ce choix? Dans cette partie orientale de l'Empire romain, il y avait un grand contraste entre la puissance et le luxe des grands propriétaires terriens, qui possédaient des milliers d'hectares, avec des fortunes considérables, et la misère dans laquelle vivaient les colons qui travaillaient ces terres, et puis le peuple des artisans dans les cités, les uns et les autres ployant sous les impôts. Donc vous voyez, on retrouve le thème que nous a présenté Catherine avec les prophètes et puis Alors cette situation sociale déséquilibrée a conduit nos deux pères à interroger les Écritures pour mieux comprendre le rôle de l'homme dans le dessein créateur de Dieu. Alors, faut-il placer l'homme au sommet de la création, ou bien le considérer comme une espèce parmi d'autres? L'homme dominateur ou bien serviteur? Ça, ce sera notre première partie. Et puis, une autre question s'est posée à eux. Comment, concrètement, dans la vie quotidienne, l'homme peut-il user au mieux de la responsabilité que lui donne cette place particulière? Ils ont souvent abordé cette question dans les homélies quasi quotidiennes qu'ils adressaient à leur peuple. Donc vous voyez, ça va être des commentaires, des textes que nous a présentés Catherine tout à l'heure. Et on va voir, non seulement dans les homélies, et puis comment eux-mêmes, ils ont mis leurs principes en œuvre. Au sommet de la création, ou bien une espèce parmi d'autres. On va voir Basile de Césarée. Ce qu'en dit Basile de Césarée, c'est intéressant. Et puis ensuite, ce qu'en dit Jean Chrysostome. Mais vous allez voir, c'est intéressant de voir des interprétations différentes sur les mêmes textes. Alors, Basile de Césarée, lui, il fait une exégèse rigoureuse des textes bibliques. Il a présenté une vision très élaborée de l'homme au sein de la création. Et de lui, on a encore 9 homélies sur les 6 jours de la création. Ça s'appelle l'Hexaéméron. Vous verrez là dans la bibliographie. Ce sont des homélies qu'il a prêchées en 6 jours pendant la semaine de Pâques. Il était encore prêtre, il n'avait pas été encore nommé évêque de Césarée, vers 370. Ce sont des textes qu'il a prononcés donc dans un contexte liturgique et ecclésial, avec une visée pastorale. Et le but de Basile était de tenter de mettre d'accord les discours profanes sur la nature et la révélation biblique. Il voulait tenter d'articuler la Bible et les données de la science de son époque. Car pour lui, ce qu'il expliquait, c'est que science et foi, tout en n'empruntant pas le même chemin, ont affaire à la même réalité. Donc vous voyez, le dialogue entre la réflexion théologique et la... On est en plein dans des questions qui se posent toujours aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir comment, à son époque, il s'est débrouillé pour le faire. Alors, il prend la suite d'Origène, que certains mieux appris, ont approché récemment, au IIIe siècle. Origène, à l'aide d'allégories, avait tenté de christianiser, entre guillemets, une exégèse juive des textes de la Genèse. C'était une exégèse marquée par les courants de la philosophie grecque. Hein. Donc à la fois, vous voyez, l'exégèse juive et aussi la philosophie grecque. Et pour tous, mais là, pour tous, vraiment, à cette époque, l'homme est pleinement inséré dans la nature. Il est uni à la création de tout son être, jusque dans sa vie spirituelle. Et ça, c'est très important à voir, parce que c'est de là qu'ils partent, hein, de cette vision-là de l'homme. Pour eux, à cette époque, l'homme est un microcosme, un monde en miniature. Donc d'abord, en l'homme, c'est un monde en miniature, et en même temps, le monde, c'est le symbole de l'homme. Si bien que par allégorie, toute la création peut signifier des éléments de la nature humaine. C'est important de voir ça au démarrage pour comprendre leur interprétation des textes. Alors, comme Origène, Basile développe une exégèse des textes de l'Écriture où il en présente trois sens. Beaucoup, tout de suite, ça va faire tilt un peu beaucoup. Le sens littéral, le sens spirituel et le sens moral. Ainsi, dans ses homélies sur l'hexaéméron, c'est cela qu'on va voir en premier, nous pouvons retrouver d'abord le sens littéral. Hein. Alors, dans ce sens littéral, il s'appuie sur les textes. Hein. C'est une exégèse de type scientifique où il lit l'écriture avec les outils intellectuels qu'il a à cette époque, c'est-à-dire il lit l'écriture à l'aune de la philosophie grecque. Et ce qu'il fait, c'est qu'il compare les explications philosophiques sur les mystères de la création et ce qu'en disent les écritures dans les écrits de la sagesse que nous a présenté Catherine tout à l'heure. Et dans cette comparaison, quelle est sa conclusion? Eh bien, il montre la supériorité des écrits bibliques sur les écrits de sagesse. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans l'homélie 1, alors, si vous voulez ensuite les lire, vous pourrez les retrouver dans les sources chrétiennes. Hein. Dans l'homélie 1, il montre que, d'abord, les arguments des philosophes se réfutent mutuellement. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein. Et là, il donne des exemples. Et puis ensuite, il explique que ces philosophes grecs manifestent un athéisme matérialiste. Donc il présente l'athéisme de ces philosophes grecs. C'est pourquoi, dit-il, ils ont cru que l'ensemble des êtres était sans pilote et sans direction, comme emporté au hasard, erreur à laquelle les condamnait l'athéisme qui habitait en eux. La question du hasard, hein, qui revient toujours posée aujourd'hui. Voilà pour le sens littéral. Donc vous voyez comment il a travaillé. Je me permets d'appuyer là-dessus parce que c'est la même façon hein, que nous devons lire et interpréter les textes aujourd'hui. Hein. C'est pour ça leur méthode. Alors ensuite, le sens spirituel du texte. Et là, ce sens spirituel nous ouvre au mystère de Dieu et de l'homme. Et là, dans ces textes, on voit, et Catherine nous l'a bien appuyé, l'homme créé à l'image de Dieu. Dans l'homélie 2, il montre la profondeur théologique du texte biblique. Parce qu'à travers la beauté de la création du monde, il montre que c'est une œuvre trinitaire, c'est la Trinité qui est à l'œuvre dans cette beauté. Il parle de l'esprit maternant, hein, l'image maternante de l'esprit, l'amour maternel. C'est une image féminine qui féconde la création. Donc, il montre comme la contemplation du monde nous ouvre finalement au mystère trinitaire. Alors, je suis désolée, hein, je vous présente en quelques mots des œuvres immenses, mais je vous en donne juste quelques petits aspects pour que vous puissiez, j'espère, avoir envie d'aller les lire. Bon, voilà pour le sens spirituel. J'ai un peu honte d'aller si vite. Enfin bon, tant pis. Le sens moral, qui utilise pleinement l'exégèse allégorique. Et là, on sort du domaine de la spéculation pour entrer dans le domaine de l'édification. Cette lecture des textes bibliques conduit l'homme finalement à une meilleure connaissance de lui-même et il montre que l'homme se connaît mieux que par la médecine même. Hein, vous voyez, donc il y a toujours ce lien avec la science de son corps. Parce que la médecine n'a qu'une connaissance limitée de l'homme. Donc là, dans cette connaissance approfondie, pour lui, tout est permis hein, dans la lecture du texte. C'est pour ça que la lecture allégorique, hein, le sens moral, peut nous déconcerter aujourd'hui. La seule chose importante, c'est rester dans le sens du texte. Donc on peut tout se permettre à condition de rester dans le sens du texte, ne pas lui faire dire n'importe quoi. Ainsi, par exemple, dans la cinquième homélie, alors il chante la beauté de la nature, et il s'appuie sur la description du développement des végétaux ou du comportement des animaux pour montrer comment l'homme devrait agir pour être en harmonie avec la nature et avec son prochain. Donc il montre comment toute la nature instruit l'homme qui sait la contempler pour un bon agir. Par exemple, il dit que les plantes sont des modèles parce qu'elles sont fertiles, elles sont généreuses, et puis elles s'entraident entre elles. D'ailleurs, vous voyez les discours écologiques aujourd'hui, hein, on nous donne l'action des arbres entre eux comme exemple pour nous. Donc c'est toujours pareil. Il explique que les poissons restent chacun dans leur domaine, contrairement aux hommes qui veulent étendre leurs possessions aux dépens des voisins. La beauté de la mer qui permet aux navigateurs d'atteindre les terres lointaines. Alors là, par exemple, on pourrait regarder dans les textes l'homélie 6. Si vous prenez Basile, là, c'est tout à fait en bas, homélie 6 contre la richesse. Le numéro 3. Hein, imite la terre, homme, porte comme elle des fruits. Ne te montre pas plus dur qu'une matière inanimée. La terre ne mûrit pas ses fruits pour en jouir elle-même, mais pour t'être utile. Et toi, les fruits que répand ta générosité, c'est toi qui les ramasses, puisque les récompenses des bienfaits retombent sur leurs auteurs. Tu as donné à manger à l'affamé, ton aumône te revient, augmenté par l'usure. Comme le grain jeté dans le sillon profite au semeur, de même le pain tendu à l'affamé te rapporte un gain immense plus tard. Donc, vous voyez cette lecture ? Ensuite, bon, comme le fleuve s'étale sur une terre fertile par 1000 canaux, dispersez vos richesses par toutes sortes de voies. Enfin, c'est une façon, vous voyez, de concrètement de donner des leçons morales. Vous verrez la suite. Donc vous voyez, je voulais vous présenter son exégèse, cette exégèse qui est au fondement finalement de sa réflexion théologique. Ce sont les arguments sur lesquels il s'appuie pour aller plus loin. Parce que la grande question, donc, c'était le rôle de l'homme dans la création, hein, à la fois dominer et servir. Et la question que se posait Basile, et qu'il voulait montrer à ses auditeurs, c'est l'homme est-il co-créateur ? Domine-t-il ou servir ? Quelle réciprocité des relations entre l'homme et la nature ? Donc il a complété les 6 homélies hein, qu'il avait prononcées dans ce temps de Pâques, par 2 autres homélies sur l'origine de l'homme 1 et 2, où il développe la lecture spirituelle des textes de la création dans la Genèse. Alors certains disent que ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est son frère Grégoire de Nice, qu'importe. Hein. Mais enfin bref, c'est attribué à Basile. Excusez-moi, je me suis... Dans sa première homélie, il décrit ainsi l'homme au sein de la création. Dans 2 numéros, le numéro 8 et 10, Basile montre que l'homme a le pouvoir de commander. Il a le pouvoir de commander à la fois sur le monde extérieur, c'est-à-dire sur les animaux, hein, mais aussi sur le monde intérieur, c'est-à-dire ses passions. Et ce qui lui donne ce pouvoir de commander, c'est par la supériorité de la raison et de l'âme. Il développe son argumentation en montrant que l'homme grandit comme les autres êtres vivants. Il a les mêmes caractères naturels. Mais ce qui lui permet de dominer la création, c'est la raison. La raison qu'il reçoit en tant qu'image de Dieu. C'est un don de Dieu pour lui permettre d'exercer son pouvoir. Alors attendez, j'ai marqué. Voilà, vous voyez, tout à fait en haut, homélie 14. Hein. Le numéro 14, homélie sur l'origine 1. Vers la fin. Il nous a fait maître de remplir et nous remplissons cette terre par la raison. Après avoir choisi ce qui est utile, n'avons-nous pas rejeté ce qui n'est d'aucun usage pour la vie humaine. Ainsi donc, la parole « Remplissez la terre » a fait de nous des maîtres. Donc voilà comment vous voyez ce rôle de la raison qui permet de choisir ce que l'on garde ou ce que l'on rejette. Voilà la bénédiction, voilà le précepte, voilà la dignité que nous a donnée. C'est là vraiment la dignité de l'image. Voilà pour cette notion d'image. Et puis il y a la ressemblance. Et là, la ressemblance, c'est l'œuvre de sa volonté. Et là, c'est là que l'on voit la compassion, la bonté. C'est la compassion, la bonté qui nous fait ressembler à Dieu. Là, vous avez dans les numéros, là on va le lire, les numéros 16 et 17. Hein. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous possédons l'un par la création. Nous acquérons l'autre par la volonté. Dans la première structure, il nous est donné d'être à l'image de Dieu. Par la volonté se forme en nous l'être à la ressemblance de Dieu. Ce qui relève de la volonté, notre nature le possède en puissance, mais c'est par l'action que nous nous le procurons. Si tu deviens adversaire du mal sans rancune et oublieux de l'inimitié de la veille, si tu aimes tes frères et leur es compatissant, tu ressembles à Dieu. Ainsi, tu possèdes ce qui est à l'image, parce que tu es raisonnable, mais tu deviens à la ressemblance en acquérant la bonté. Acquiers des entrailles de compassion et de bienveillance afin de revêtir le Christ. Cette vision de Basile, là, ce passage-là est très important pour comprendre la vision que Basile a de l'homme, image et à la ressemblance. Dans sa deuxième homélie, il montre comment l'homme utilise sa volonté pour bien utiliser le pouvoir qui lui a été donné sur la création. Comme remède à la convoitise, il faut se rappeler notre lien originel à la terre, car l'homme, venant de la terre, lui est intimement lié. Ça, vous le verrez dans l'homélie 2, 12, hein, montrant le lien entre l'homme et la terre. Dieu prit de la poussière de la terre et Dieu modela l'homme. Quand peux-tu t'oublier toi-même? Tu t'oublies toi-même quand tu t'éloignes de la terre. Si au contraire tu ne t'écartes jamais de la terre, mais tu demeures connaturel à la terre, alors tu marches sur la terre, tu reposes sur la terre, tu passes en jugement sur la terre. Quoi que tu fasses de grand ou de petit sur la terre, tu gardes auprès de toi le mémorial de ta petitesse. Un peu plus loin, il dit, quand tu cours par convoitise, c'est sur la terre que tu cours. Souviens-toi de ton origine. Donc, cette notion, se rappeler qu'on est proche de la terre, ça nous montre notre petitesse et surtout nous empêche de partir dans des grandeurs qui nous font complètement dévier et aller vers des erreurs, des catastrophes dont nous a parlé tout à l'heure, que l'on a vu dans des textes que nous a présenté Catherine. Alors, donc, pour servir aussi, là, le rôle de l'homme, c'est donc utiliser sa volonté à la fois comme remède à la convoitise, on l'a vu, mais aussi pour servir. Emplissez la terre, ça c'est dans la même homélie 2. Emplissez la terre, la chair qui vous a été donnée pour faire office de serviteur, emplissez-la de bonnes actions. Que l'œil soit plein de la vision du devoir, que la main soit pleine de bonnes actions, que les pieds soient prêts à visiter les malades, alerte pour aller au devoir, que tout l'appareil de nos membres soit plein de pratiques recommandées. C'est cela, la parole emplissait la terre. Voilà, et puis aussi un autre aspect de serviteur, c'est garder une certaine sobriété dans le régime alimentaire. Donc il s'occupe de choses vraiment très concrètes. L'homme, comme tous les animaux, avait un régime végétarien avant la faute. C'est après le déluge que finalement un régime carnivore lui a été autorisé aux hommes et à tous les êtres vivants, mais dans le respect d'une certaine sobriété. Il continue un peu plus loin dans cette homélie 2. « Puisque nous voulons maintenant nous conduire en imitant la vie du paradis, évitons cette jouissance surabondante des nourritures et conduisons-nous autant qu'il est possible d'après cette vie-là. Utilisons pour notre entretien produits de la terre, graines et fruits durs et le superflu, rejetons-le comme inutile. » Ainsi, pour Basile, l'homme est appelé à dominer, oui, grâce à l'usage de la raison, qu'il a reçu comme image de Dieu, mais en faisant usage de sa volonté pour servir et maîtriser sa convoitise et pour aller vers la ressemblance de Dieu, pour ce qu'il appelle revêtir le Christ. Vous voyez toute la démarche écologique, c'est pour revêtir le Christ. Voilà pour Basile, très rapide. Jean Chrysostome. Alors pour Jean Chrysostome, lui, ce qu'il a voulu décrire, c'est surtout la solidarité entre l'homme et la création. Pour lui, c'est le signe de l'amour divin. Et pour Jean Chrysostome, à temps et à contre, temps chante, montre la beauté de la création. Et que la beauté de cette création, belle et bonne, est le signe de la bonté de Dieu et de son amour. Dans le texte 1, si vous tournez la page, le signe admirable de sa bonté, le voici. C'est que sans avoir besoin de notre service, il nous a appelés à être, à l'être. En effet, avant que nous existions, il possédait sa propre gloire et sa béatitude. C'est uniquement par amour qu'il nous a appelés à l'être, et tout cela à cause de nous. Pour lui, pour Jean Chrysostome, la beauté de la création nous oriente vers le Créateur. Sa splendeur nous parle de Dieu d'une manière compréhensible par tous et elle nous conduit à la prière de louange. Ainsi, dans son homélie sur Genèse 1, il dit « Le ciel est beau, mais c'est afin que tu te prosternes devant celui qui t'a fait. Le soleil est brillant, mais c'est afin que tu adores son auteur. » Et il explique en même temps que toute la création est créée pour l'homme. Celui-ci n'a pas échoué sur une terre étrangère et hostile. Il est dans un monde qui a été fait pour lui. Là, on va voir le deuxième texte qui vous a été donné en photocopie. Pour lui la terre, pour lui le ciel. Pour lui, le soleil et les astres. Pour lui, la course de la lune, la succession des temps et des saisons. Pour lui, la production des fruits, les arbres et tous les animaux. Pour lui, le jour et la nuit. Donc vous voyez toute la création orientée vers l'homme. Et cela par amour. Hein. Derrière cette vision de la relation entre l'homme et la création, il voit l'amour de Dieu, c'est ça qui... Cette réalisation, cette compréhension de l'amour de Dieu pour l'homme et pour toute la création, c'est ce qui fonde sa réflexion. Dans un commentaire du récit de la création, il explique que même les bêtes féroces et les reptiles peuvent être utiles à l'homme, ne serait-ce que pour la pharmacopée. Donc on peut en tirer de bonnes choses. Et cette harmonie n'est pas le fruit du hasard. Ni le monde, ni l'homme ne sont jetés dans l'existence par une force aveugle. Ils sont œuvres d'amour. Et cette solidarité entre l'homme et la création, c'est encore, je le répète, le signe de l'amour bienveillant de Dieu. On voit que Jean Chrysostome se présente davantage, finalement, comme un contemplatif mystique. On voyait Basile de Césarée théologien spéculatif, et puis Jean Chrysostome, le contemplatif mystique. Et c'est ainsi qu'il considère les mystères de la création. Et c'est intéressant de regarder ces envolées lyriques devant la beauté de la création, parce que pour ceux qui connaissent Jean Chrysostome, il est surtout présenté comme un prédicateur assez violent, et assez. Ce sont des paroles implacables qu'il prononce pour ses auditeurs. Donc, entendre, j'ai voulu vous présenter ces envolées mystiques, comme quoi toute personne est diverse et complexe. Voilà. Alors, communauté de destin entre l'homme et la création. La suite de la réflexion de Jean Chrysostome. Le fait que toute la création a été faite pour l'homme, dans des desseins d'amour de Dieu, tisse entre le destin de l'homme et celui du monde une solidarité que rien ne peut rompre. Là, c'est important pour notre réflexion sur l'écologie. Solidarité dans la gloire et l'honneur à l'origine, et on l'a vu tout à l'heure, solidarité dans la déchéance après la faute. Il y a donc entre la création et l'homme un besoin réciproque. Il dit « Le monarque est nécessaire au sujet, et les sujets au monarque, comme la tête aux pieds. » Ça c'est dans une homélie au peuple de Constantinople. Communauté de destin donc, mais l'homme en est le roi et le chef, et le monde est soumis à sa domination. Et pour Jean Chrysostome, si l'homme domine le monde, c'est parce qu'il est image de Dieu. C'est parce qu'il participe à la domination, au pouvoir divin. Et pour lui, on voit la différence de Basile, il ne fait pas de distinction entre image et ressemblance. Et cette domination universelle se manifeste en ce que l'homme a la jouissance des produits de la terre, mais aussi, non seulement des produits de la terre, mais aussi des animaux, de tous les êtres non doués de raison. Dignité de l'homme, investi d'un tel pouvoir, par pure libéralité de Dieu, et non pas comme récompense de ses travaux. Ce qu'il dit vis-à-vis des animaux, de la relation de l'homme aux animaux. Leur étant inférieur à tout, il n'y a plus que 5 minutes, c'est catastrophique. Alors, vers une consommation maîtrisée, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai pris les règles monastiques de Basile de Césarée. Basile, donc, je vous passe sa vie, parce que vous la connaissez, ou vous le verrez, mais il était parti au début dans des... il voulait partir, se retirer dans un site, vivre des jeûnes, il était attiré par la vie monastique, et il a constaté les inconvénients des jeûnes excessifs et d'une trop grande austérité physique. Il voyait que c'était dommageable pour le corps humain. Et il s'est rendu compte aussi que la vie en communauté était vraiment... ça manquait pour les ascètes. Donc, pour lui, c'est la vie monastique qui était importante. Il a développé, à travers ses règles, différents... alors, je vais vous prendre les titres, simplement, de mes chapitres. Donc, le principe de toute action pour les moines... C'est la gloire de Dieu. Il faut agir non pas pour recevoir des louanges, mais pour que nos actes rendent gloire à Dieu, dans les petites règles. Et même jusque la façon de se nourrir, il dit que se nourrir, c'est pour la gloire de Dieu, en se tenant dignement en présence de Dieu, et en se nourrissant non pas pour le plaisir, mais pour se fortifier en vue de notre mission propre. Donc mettre tout son zèle dans l'œuvre du Seigneur, c'est le fondement pour Basile de toute action de l'homme. Il y a la tempérance. À la place de la tempérance, nous dirions plutôt la sobriété. Bien ajuster les moyens aux fins, ni trop peu. Il est à l'opposé d'une consommation frénétique qui conduit à l'épuisement des ressources pour une vie plus fraternelle. Et dans ses règles, il montre que pour la nourriture, la tempérance, c'est ne pas se priver de nourriture, c'est pas ça. C'est n'user que de ce qui est nécessaire à la vie, en s'abstenant de ce qui n'est que pour le plaisir. Reconnaissance et respect des besoins vitaux de notre corps à l'image de l'action de Dieu pour Israël dans le désert et de Jésus auprès des malades. Donc le corps est bon, il faut le soigner. Mais plutôt que de choisir des mets chers et venant de loin, choisir des aliments produits à proximité. Vous voyez déjà. Sauf en cas de nécessité vitale, il écrit « On choisira au contraire ce qu'on trouve de plus facilement dans la contrée, coûte peu et est d'usage commun. On emploiera les aliments amenés de dehors, comme l'huile ou choses semblables, qu'en cas de nécessité vitale ou pour soulager un malade. Encore faut-il que ce soit possible sans trop d'ennui, d'agitation et de soucis. » Donc vous voyez, toujours les mêmes questions. Voilà. Et la tempérance permet aussi dans notre relation au bien d'entrer en relation à Dieu qui nous les a donnés et de lui en rendre grâce. Toujours ce rapport à Dieu. Le travail, là aussi, grand équilibre, le travail des moines, hein, là je vous parle dans ces règles. Le travail n'est pas une occupation pour éviter les tentations, dit-il. Et puis, il dit aussi qu'il ne faut pas trouver l'excuse de la prière pour éviter de travailler. Hein. Parce qu'on peut parfaitement prier en occupant ses mains et en remerciant Dieu de nous donner la capacité de travailler. Le travail du moine lui permet de mettre en œuvre son amour pour ses frères. Voilà. La troisième façon dont l'homme peut agir librement pour maîtriser la consommation, c'est le partage, qui est la mise en œuvre du commandement d'amour divin. Alors là, le partage, il l'a mis lui-même en pratique en tant qu'évêque, dans son administration de son diocèse. Si vous entendez pas, vous verrez, il a créé à côté du palais épiscopal une cité de la charité qui s'appelait la Basiliade, avec un hospice pour les vieillards, une hôtellerie pour les pauvres, une léproserie, des ateliers procurant du travail aux indigents et une soupe populaire qui leur était distribuée. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais très vite, j'étais obligée de. Mais je voudrais quand même dire quelques mots. Hein, je peux encore 3-4 minutes enfin, pour travailler le travail chez Jean Chrysostome. Alors, d'abord, si quand même vous dire, quand il est arrivé évêque à Constantinople, il a commencé par changer la vie pour lui-même. Hein. Suppression des trains de vie luxueux de la maison épiscopale, développement des œuvres sociales, réforme du clergé, évangélisation des campagnes. Vous voyez, ce n'est pas un diplomate ni un mondain. Il avait un franc-parler et puis des exigences morales qui lui ont rendu assez impopulaire auprès de ceux qui lui avaient demandé de venir, parce que c'était un très grand orateur, il était connu pour ça. Hein. Mais peut-être intransigeant, mais très très aimé du peuple et surtout des plus pauvres, ce qui est un signe. Il avait choisi dans sa jeunesse, il avait choisi de vivre en ascète et toute son œuvre, il parle du danger des richesses humaines qu'il lie au péché. L'assistance des pauvres par l'argent et par l'accueil est au cœur de son enseignement. Car pour lui, il y a identité mystique entre le Christ et le pauvre. Tous les misérables sont le Christ errant et nu. Le fondement de la pensée de Jean Chrysostome, c'est l'amour de Dieu pour l'homme, on l'a vu. Et à cet amour, l'homme répond par l'usage de son libre arbitre qui permet à la grâce de se déployer en lui. Alors, je vais juste... responsabilité de l'homme sur le devenir de la nature. C'est sûr que l'homme, par son travail, il est responsable des désastres naturels. Et là, vous lirez dans l'homélie sur Isaïe 1, le texte 4. Et là, pour remédier à cette vision pessimiste de l'action de l'homme laissée à lui-même, Jean Chrysostome rappelle souvent la nécessité d'une coopération de Dieu au travail humain pour que celui-ci aboutisse. L'attitude de l'homme et l'action divine sont en étroite relation. C'est la puissance de la parole initiale de Dieu. C'est à cette puissance que la terre doit être féconde. Donc, toujours se souvenir de cela. La création matérielle se trouve donc placée du fait de l'homme sous le double signe d'une bénédiction, s'il reconnaît le rôle de Dieu qu'il est, et puis d'une malédiction. C'est donc une tension du fait de la faute qui a été très bien montrée par les textes que nous a présentés Catherine tout à l'heure. Et Jean Chrysostome a constamment interpréter et présenter ces textes. Donc, responsabilité de l'homme sur le devenir de la nature, mais aussi action libératrice du travail. Là, je voudrais juste encore 2 minutes. Pour Jean Chrysostome, le travail auquel l'homme a été soumis après la faute n'est pas tant un châtiment qu'un moyen d'éducation, une école de sagesse, une libération de son oisiveté et de sa convoitise. Dans la société de son époque, où le travail est déconsidéré, où ceux qui doivent travailler de leurs mains pour vivre sont méprisés, Jean exalte la supériorité du travailleur qui, par son travail, par son ouvrage, donne un but à sa vie et participe au bien-être de tous par rapport aux riches qui passent leurs jours dans un luxe inutile. Voilà ce qu'il leur dit. Je le lis quand même. « Pourquoi ne travaillez-vous pas ? Dieu vous a donné des mains, non pour que vous receviez des autres, mais pour que vous subveniez à leurs besoins. » Donc le travail, c'est action libératrice du travail, mais c'est aussi une loi de la nature. Et il fustige ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des esclaves, hein, parce que le travail, bien compris, remet l'homme à sa juste place dans le monde. Et en face de Dieu, il lui permet de rester dans les limites de la volonté divine. Et là, Jean Chrysostome montre une fin spirituelle du travail. Et le travail est créateur de liens sociaux. Par son travail, l'homme participe au bien-être de tous. Grande interdépendance des hommes les uns avec les autres. Si bien qu'il ne faut pas se fier aux apparents. Celui qui a le plus besoin des autres, est-ce le riche ou bien le pauvre ? Les riches ont besoin des pauvres pour assurer les travaux leur permettant de vivre, alors que les pauvres, par leur travail, ont dans le monde un rôle privilégié. Jean Chrysostome exalte la supériorité du travail sur le capital. Rôle privilégié des pauvres dans le monde, que nous découvrons aussi les travaux, hein, pour Jean Chrysostome. Deux, des pauvres dépend en effet l'existence de l'humanité, parce qu'en eux est incluse la potentialité de travail dont elle a besoin. Remise en place des vraies valeurs, en rendant leur fierté légitime à ceux qu'ils nomment les soutiens de l'existence. Donc vous voyez, il y avait déjà des soutiens de l'existence. En ce sens, la pauvreté est un don de Dieu, car une société regorgeant de richesses serait une société en décadence où l'oisiveté conduirait à la ruine. Mais pour remplir ce rôle social, c'est fini, hein? Mais pour remplir ce rôle social, le travail doit, comme la richesse, entrer dans le grand courant des chances fraternelles que l'économie divine a voulu pour l'humanité. De même que nous ne sommes pas propriétaires mais dépositaires de nos biens, notre travail doit servir au bien de tous. Et le travail, transfiguré dans son but et dans son exercice par la présence de la charité. Voilà. Alors, on voit une consommation sobre, la valeur du travail des humbles mise au service de tous, Jean Chrysostome. Ce sont des points d'appui, points d'interrogation, des points d'appui et des recommandations pour aujourd'hui. Je dois vous avouer qu'en lisant les pères, j'espère que j'ai trouvé qu'ils étaient d'une actualité. J'avais l'impression de lire des commentaires d'aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait aussi actuel.
Pour les pères, quelle place de l'homme dans la création ? Vous venez de suivre l'intervention d'Isabelle Pommel, docteur en théologie. La création tout entière soupire, de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 22, les défis d'un monde à naître, enjeux et responsabilités pour tous. Session sur l'écologie intégrale, enregistrée les 22 et 23 janvier 2021 à Notre-Dame de Buglos dans les Landes, session organisée par l'antenne de théologie des pays de l'Adour, ATPA, diocèse d'Eredax et de Bayonne. Vous pouvez retrouver toutes les interventions sur le site internet de l'antenne de théologie des pays de l'Adour, atpa-theologie.com.